présence à Moissac 93.3.
Il est midi, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec toute l'équipe. Nous sommes ravis de vous accompagner durant votre pause déjeuner dans l'équipe. Et bien dans un instant, on va retrouver Anne-Rose Jankovic. Anne-Rose va recevoir dans un instant Jean-Paul Pérez qui viendra nous présenter une proposition portée par la paroisse de Lourdes. C'est une soirée bioéthique. Cette soirée, notez la date, c'est le jeudi 28 mai prochain à Lourdes à 18h. On va largement en parler dans cette émission. Et puis dans la deuxième partie de ce magazine, Anne-Rose va rester avec nous puisqu'elle recevra Hélène et Thomas Barbier. Ils sont tous les deux coordinateurs du mouvement Vivre et Aimer en Bigorre, Béarn et Pays Basque. Ce mouvement d'église qui s'inspire largement de la spiritualité ignatienne. On va en parler tout à l'heure aux alentours de 12h35. Et puis un petit peu de fraîcheur dans cette émission puisque nous irons au lac de Lourdes, à quelques centaines de mètres du centre-ville de Lourdes. Ce lac glaciaire est un lieu incontournable pour tous les Lourdes. On en parlera avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec Ambre Pagès, qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Ambre, on la retrouve pour les titres qui seront développés à midi et demi.
Nouvel épisode orageux en Occitanie aujourd'hui. 11 départements de la région sont placés en vigilance jaune, risque d'orage de 6h à 22h par Météo France. Cet après-midi, d'importantes précipitations sont attendues, accompagnées de grêles pour certaines. Celles-ci devraient s'estomper en début de soirée. Le tribunal de commerce de Toulouse a statué hier sur le cas de l'entreprise Fibre Excellence, dont des sites se trouvent à Saint-Gaudens. L'entreprise spécialisée dans la production de pâte à papier est placée en redressement judiciaire, assortie d'une période d'observation de 6 mois. Cette décision vise à trouver des solutions durables pour maintenir et pérenniser les activités du site et garantir la préservation des emplois. Après 2 ans sans utilisation, la nouvelle municipalité de Pamiers a décidé de déplacer 3 bornes du point d'apport volontaire, situé place de la République. Le dispositif de collecte des déchets est resté bâché depuis la fin des travaux de rénovation de la place. Le transfert est en cours d'élaboration. La version audio sous-titrée s'invite sur les écrans des cinémas du Grand Figeac. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique en faveur de l'accès à la culture pour tous. Elle assure l'inclusivité de tous les publics, mais aussi de redécouvrir le 7e art. Demain, à l'occasion de la journée européenne de la solidarité intergénérationnelle, l'association Habitat et Humanisme Sud-Garonne ouvre ses portes de 11h à 14h. Une journée où il est possible de découvrir la maison Marie-France et Jean Cronier. Une résidence qui accueille sous un même toit jeunes travailleurs, seniors et familles monoparentales. Les 200 ans de Gustave Moreau sont célébrés à Decazeville ce jeudi. Une visite du chemin de croix de l'église Notre-Dame est organisée par l'Office du Tourisme à 15h. Trésor de la ville, les 14 tableaux ont été peints par l'artiste entre 1862 et 1863.
Merci Ambre Pagès. Voilà, Ambre qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. On la retrouve tout à l'heure à midi et demi pour développer ses titres dans le journal. Dans un instant, on va vous présenter une proposition portée par la paroisse de Lourdes, une soirée bioéthique. C'est le 28 mai prochain. Jean-Paul Pérez sera l'invité dans un instant d'Andros Jankovic dans cette émission Présence Midi. Très bon appétit à vous qui nous écoutez.
Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Jamais venu la loue, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau. de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas de temps de se lasser. On n'a pas de temps de se tasser. On n'a pas de temps de languir.
Présence à foi 100.2.
Merci d'écouter à Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et c'est le moment de retrouver, comme tous les mardis, Anne-Rose Jankovic avec son invité. Anne-Rose.
Bonjour Jean-Paul Pérez.
Bonjour Anne-Rose.
Jean-Paul, vous êtes paroissien de la paroisse du Pays de Lourdes et vous allez nous présenter aujourd'hui une proposition portée par la paroisse de Lourdes. C'est une soirée bioéthique qui aura lieu le jeudi 28 mai. À Lourdes, avec tout un programme à partir de 18h. Vous allez nous présenter ça aujourd'hui. D'abord, pourquoi c'est important de faire une soirée, un moment bioéthique dans une paroisse ?
Eh bien, c'est important parce que déjà aujourd'hui, en France, dans notre pays, il se passe des choses. Il y a les états généraux de la bioéthique qui ont démarré.
Dont on ne parle pas vraiment beaucoup.
Ah non ? Vraiment, on n'en parle pas, même pas du tout.
Et pourquoi ?
Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, puisqu'on est chrétien, de mon point de vue, il faut s'y intéresser parce que la bioéthique, c'est pas une notion de permis défendu, ou ce n'est pas une notion qui est réservée à des spécialistes. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu complexes, etc. Mais non, mais la bioéthique, ça concerne d'abord tout un chacun. Et d'autre part, ça concerne notre vision de l'homme, notre vision de la femme.
C'est pas une affaire de scientifiques, de médecins spécialistes qui ont planché
pas.
Sur des tas de dossiers.
Non, ça concerne tout le monde, la bioéthique. Et particulièrement lorsqu'on est chrétien, parce que on a le devoir de s'intéresser à ce qui se passe dans notre monde. On a le devoir d'y être présent. Et puis, la bioéthique, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas que, encore une fois, une question de loi ou de permis défendu, mais comme le dit Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, annoncer la vie, c'est annoncer Jésus, en fait. Et parce que c'est lui le verbe de vie. Et du coup, tout ce qui tourne aujourd'hui de ce qu'on appelle la bioéthique, en fait, ça concerne la vie, et la vie de tout le monde.
Cette soirée bioéthique, elle s'adresse donc à tout le monde, aux paroissiens de Lourdes et plus largement tous ceux qui veulent un petit peu creuser ces questions-là.
C'est ça, l'objectif c'est de vivre quelque chose ensemble d'une part et puis de mieux comprendre certains enjeux d'aujourd'hui, certains débats surtout d'aujourd'hui sur la fin de la vie, sur les débuts de la vie aussi. Et on se rendra compte, et on se rend compte d'ailleurs, que début de la vie et fin de la vie, en fait, sont liés. D'abord, c'est une même continuité, mais lorsqu'il y a des choses qui touchent les débuts de la vie, ça touche la fin de la vie aussi, et réciproquement.
On se rend compte que souvent, quand il y a un débat bioéthique qui éclate et là, qui suscite un peu plus d'émotions, sans doute plus que les états généraux, comme vous le soulignez, c'est souvent par rapport au tout début de la vie ou à la toute fin. Entre les deux, on n'en parle pas trop.
Ben, oui,
comme
oui,
s'il se passait rien, finalement.
Eh bien, en fait, non. Il se passe des choses. Mais, si vous voulez, d'abord, la bioéthique, c'est quelque chose c'est un terme qui est relativement nouveau. Hein. C'est apparu dans la loi française il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, et c'est un terme qui a été inventé dans les années 70, qui vise à autonomiser, si vous voulez, la réflexion sur l'éthique, sur le comportement, la recherche du bien, etc.
C'est déjà bon signe.
Alors, qu'il y ait une réflexion, c'est bon signe. Mmh. Mais que cette réflexion soit autonome, en dehors de tout cadre de référence, là, il peut y avoir un petit problème. Et lorsque l'on est chrétien, on a une vision de l'homme, une vision de la femme, une vision du couple, par exemple. Et c'est ça notre critère de référence. Et on ne peut pas avoir autonomisé la science, autonomisé les pratiques, en dehors de cela. Parce que sinon, finalement, c'est quelque chose qui tourne sur elle-même, et en fait, qui se justifie en permanence par elle-même.
Alors le jeudi 28 mai, il y a tout un programme. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à 18h par la messe. La messe à l'église paroissiale de Lourdes. Puis ensuite, il y aura un temps d'adoration, de prière pour la vie, de 18h30 à 19h30. Et ensuite,
à 20h30,
un documentaire, le dérèglement bioéthique. Alors, on va revenir sur le dérèglement bioéthique, sur ce documentaire qui est proposé, réalisé par la Fondation Jérôme Lejeune. Mais d'abord, je trouve ça intéressant quand même de pointer que vous commencez par un temps de prière. Ça, c'est quand même très important, ce temps de prière pour la vie.
Absolument, parce que dans toute chose, d'ailleurs, lorsqu'on est chrétien, la prière, c'est ce qui fonde l'action. Par exemple, et particulièrement dans ce domaine de la vie, tout ce qui tourne autour de la vie ce n'est pas que du combat, parler de la vie ce n'est pas que de la confrontation, parler de la vie c'est d'abord de la prière en fait.
C'est une bonne nouvelle, a priori.
Et la vie est une bonne nouvelle en fait, parce que la vie c'est le verbe de vie, c'est Jésus, et on annonce une bonne nouvelle. Et du coup c'est de se tourner d'abord vers la vie, qui est Jésus dans l'Eucharistie, et ça sera dans l'adoration pour cette prière pour la vie.
Ensuite, donc je le disais, à 20h30, ce documentaire qui sera suivi d'un temps de réflexion. Ça, c'est un moment en partenariat avec la Fondation Jérôme Lejeune. Mais le dérèglement bioéthique, c'est le titre du documentaire. De quel dérèglement parle-t-on là ?
En fait, il y a un jeu de mots, parce qu'on parle de dérèglement climatique, si vous voulez, aujourd'hui, qui est très à la mode. Voilà. Donc on parle de dérèglement bioéthique parce que il y a des choses qui sont assez préoccupantes, je dirais, sur le plan, d'une part, de la réflexion, mais aussi sur le plan des capacités que la technique aujourd'hui offre à l'homme, et sur la capacité de manipulation de la vie. Les débats autour de la vie ne se focalisent pas uniquement sur la fin de la vie, même si aujourd'hui c'est un enjeu majeur, puisque la discussion des lois sur la fin de la vie, et en particulier sur le suicide assisté, nous font craindre une transgression en fait anthropologique. C'est-à-dire que dans la loi naturelle, dans les commandements, il est dit « tu ne tueras pas ». Or, tuer quelqu'un n'est pas un soin. Abréger la vie de quelqu'un n'est pas un soin. Donc effectivement, aujourd'hui, ça revient en permanence.
Mais on voit quand même que les choses ont évolué, les choses ont un peu bougé. On a quand même vu au Sénat des réactions qu'on n'avait peut-être pas, on n'avait peut-être pas prévu que ça se passe comme ça, mais on voit bien que c'est pas une évidence quand même quand on touche à la fin de la vie.
Ce n'est pas une évidence pour certains, pour d'autres c'est une évidence dans un certain domaine, si vous voulez. C'est un peu comme une marée qui, il y a un flux, il y a un reflux, donc effectivement il y a des mouvements, etc. Mais on sent qu'il y a une tension de certaines vers la capacité de pouvoir manipuler, d'avoir prise en fait sur la vie. Or, la vie, elle nous est donnée. Même dans un laboratoire, dans une éprouvette, on ne peut pas créer la vie. En fait, c'est impossible. Même lorsque l'on met deux gamètes ensemble dans une éprouvette, c'est pas vraiment une éprouvette, mais lorsqu'on met deux gamètes ensemble, on se rend compte qu'on ne peut pas créer la vie, en fait. Et donc, il y a cette volonté de vouloir avoir prise sur la vie, et en particulier sur la vie des humains. Et il y a un risque de transgression lorsque l'on veut prendre totalement la main sur la vie des personnes sous couvert de dire que c'est du soin.
C'est une volonté politique ou scientifique ?
Il y a, du point de vue des soignants, puisque moi j'ai été soignant, nous savons que nous sommes faits pour soigner, pour donner la vie, pour soutenir la vie, pour accompagner la fin de la vie. Mais du côté du soignant, je pense, et j'ai de nombreux témoignages, il n'y a pas cette volonté d'abréger la vie, en fait. Il y a cette volonté d'accompagner la vie au mieux. Même dans les services de cancérologie, les services de réanimation, c'était un...
Oui, on voit avec les témoignages des soignants dans les unités de soins palliatifs, par exemple.
Absolument. Et si les unités de soins palliatifs existent, c'est bien justement pour cette dimension d'accompagnement. Mais il n'y a pas volonté du côté des soignants.
Donc c'est politique. C'est une affaire politique, tout ce que vous nous décrivez là.
Oui, au politique, au sens des affaires de la cité, effectivement. Mmh. Et donc, il y a des gens qui estiment, de leur point de vue, si vous voulez, que abréger la vie permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes.
Tout cela, il en sera question dans cette soirée. En fait, c'est l'objet du documentaire. Le dérèglement bioéthique ne va pas se concentrer uniquement sur cette question-là,
non,
j'imagine.
Justement, ça ne va pas se concentrer uniquement sur ces lois de fin de vie, parce que, encore une fois, ce qui concerne l'homme concerne tout l'homme et tous les hommes. Ça, ce n'est pas de moi, c'est l'Église qui le dit dans Vatican II. Je le reprends tranquillement. Et ça concerne tout l'homme, c'est-à-dire ça concerne du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et donc, on parle de dérèglement bioéthique parce que il y a quand même des questions qui se posent. Par exemple, lorsque la loi autorise de créer des embryons chimères, c'est-à-dire où on peut mélanger en quelque sorte des cellules humaines embryonnaires et des cellules animales, si vous voulez, on crée quelque chose. On ne peut pas parler d'être humain, puisqu'il y a une sorte de mélange, si vous voulez. Et donc, ça, c'est aujourd'hui, c'est autorisé par la loi, et ça sera sans doute étendu. Et on est dans la manipulation de l'être humain, parce qu'on ne peut pas dire que l'embryon qui devient une personne, si vous voulez, n'est pas un être humain. Et donc, ce sont des choses comme ça qui vont être abordées. Et puis, ce qui est très beau dans ce documentaire, que j'ai déjà vu, c'est qu'il y a un jeune couple qui raconte son histoire. Et son histoire avec son enfant, et c'est un peu le fil conducteur de ce documentaire, et c'est très très beau de voir que la vie est plus forte en fait.
Ce jeudi 28 mai, donc après le visionnage de ce documentaire donc réalisé par la Fondation Jérôme Lejeune, je le rappelle, il y aura un temps d'intervention, puis un temps d'appropriation là, en petits groupes. Alors c'est quoi l'objectif? C'est que y ait un réveil chez vos amis paroissiens et que les gens puissent vraiment se dire bah là en fait c'est aussi mon devoir de m'y intéresser, de m'informer, de prendre part à tous ces débats. C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous faites cette soirée là?
Pourquoi cette soirée? C'est parce qu'encore une fois, la bioéthique, c'est l'affaire de tout le monde. Et ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes.
Oui, mais tout le monde ne va pas faire bouger les choses.
Eh bien, on peut faire... quand on est chrétien, on sait qu'on peut faire bouger les choses par la prière, déjà. Et puis, de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, c'est fondamental, en fait. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un monde... dans une paroisse, par exemple, on ne vit pas dans un monde qui est clos, dans un cocon, si vous voulez. On est dans le monde, en fait. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et c'est important de comprendre, déjà, de comprendre ce qui se passe dans notre monde, celui que l'on habite. Et puis, c'est important de intérieurement se mobiliser, de se sentir concerné. Oui. Parce que c'est souvent des expériences humaines qui peuvent être très douloureuses, qui peuvent être très sensibles et autres. Et on ne peut pas avoir la vie tranchée dans ce domaine-là. Et on ne peut pas avoir... ce n'est pas une question, encore une fois, de permis défendu, mais c'est une question de c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme, c'est quoi le couple, c'est quoi l'enfant, c'est quoi la vie, finalement. Et ça, ça concerne tout le monde.
Quel public particulièrement vous visez, pour faire court, est-ce qu'il y a un âge requis pour être réceptif à tout ça?
Eh bien, je dirais de 7 à 77 ans. Non, 7 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais je dirais même des grands ados, des lycéens, des collégiens, c'est peut-être un peu jeune encore. En tout cas, des lycéens jusqu'à n'importe quel âge, en fait. Nous sommes tous concernés, encore une fois.
Et puis pas seulement des paroissiens, on peut venir, on peut inviter plus largement aussi.
Bien sûr.
Voilà, puisqu'on a bien compris, c'est un sujet qui concerne tous les hommes. Tout homme et tous les hommes. Pour terminer, Jean-Paul Pérez, en préparant cette émission, vous me parliez des 5 essentiels, les 5 essentiels pour la vie. Est-ce que vous pouvez rapidement nous mettre l'eau à la bouche et puis vous reviendrez nous en parler? Puis allez, puisqu'on est dans les promesses, vous reviendrez aussi nous parler des états généraux de la bioéthique.
Toute promesse. En fait, un jour que je réfléchissais aux 5 essentiels dont on entend parler beaucoup dans les paroisses, qui sont fondés sur l'écriture, sur le chapitre 2 des Actes des Apôtres, où on voit les apôtres qui sont assidus à l'enseignement, assidus à la fraction du pain en prière, qui partagent, qui sont... Donc on peut décliner ces 5 essentiels en 5 essentiels qui sont la prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Eh bien, je me rends compte en fait que dans l'Évangile de la vie, qui est une encyclique majeure, qui est pas très connue, mais qui est une encyclique majeure, on parle finalement de ces 5 essentiels où Saint Jean-Paul II, dans cette encyclique, nous incite d'une part à la prière, à vivre la fraternité, puisqu'il parle de peuple de la vie, de former les consciences, de former les personnes. Il parle aussi de tout ce qui est le service. Parce que Être pour la vie, ce n'est pas être contre l'euthanasie ou contre, mais c'est d'abord être pour. En fait, l'Église n'est pas forcément contre, elle est d'abord pour. Mmh. Et elle est pourquoi ? Bah, accompagner la vie naissante, avoir des centres d'aide pour des communautés de réhabilitation de toxicomanes, d'hébergement des mineurs, des malades mentaux, etc. Tout ça, ce sont des dimensions qui sont déjà vécues sur Lourdes, par exemple. Et puis, il y a aussi l'annonce, l'évangélisation, parce qu'encore une fois, annoncer la vie, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même.
Merci beaucoup Jean-Paul Pérez. Rendez-vous donc jeudi 28 mai à Lourdes. Rendez-vous d'abord en l'église paroissiale de Lourdes à 18h pour la messe, 18h30, 19h30 un temps d'adoration et de prière pour la vie, et puis à 20h30 donc le dérèglement bioéthique, documentaire réalisé par la Fondation Jérôme Lejeune. Ce documentaire qui sera suivi d'un temps de réflexion et d'échange. Merci Jean-Paul Pérez, à bientôt sur Radio Présence.
Merci Anne-Rose.
Et merci à Anne-Rose Jankovic, voilà, qui a réalisé cet entretien. Anne-Rose va rester avec nous puisque dans un instant, la suite, ce sera avec ses invités. Elle va recevoir Hélène et Thomas Barbier. Ils sont tous les deux coordinateurs du mouvement Vivre et Aimer en Bigorre, Béarn et Pays Basque. C'est à suivre dans un instant.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio, www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Et restez avec nous dans un instant. L'actualité régionale, c'est avec Ambre Pagès, qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse.
On ne retient pas les cures. On sait la vie se consume et il n'en reste rien d'une bougie qui s'allume. Tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Crois-tu que tout se résume au sel d'entre nous?
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et c'est maintenant Ambre Pagès qui nous rejoint pour le journal régional. Ambre Pagès qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse.
Bonjour à tous. Après des températures dignes de l'été, les orages sont de retour dans la région. 30 départements, dont 11 en Occitanie, sont placés en vigilance jaune pour risque d'orage par Météo France. Aujourd'hui, l'épisode orageux concerne des départements tels que la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, le Tarn ou l'Ariège. Cet après-midi, des pluies orageuses sont attendues. Certains orages seront accompagnés de grêles et devront s'estomper en début de soirée. La vigilance est maintenue de 6h à 22h. Cette dégradation avait débuté hier, en fin de journée. Hier, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu son verdict au sujet du dossier sur l'entreprise Fibre Excellence. L'entreprise spécialisée dans la production de pâte à papier, dont un site se trouve à Saint-Gaudens, est placée en redressement judiciaire, assorti d'une période d'observation de 6 mois. Le 15 avril dernier, suite à 2 mois de difficultés conséquentes, l'entreprise avait déclaré être en état de cessation des paiements. Elle avait fait la demande de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette décision doit permettre de faire émerger des solutions pour garantir la pérennité des activités de Fibre Excellence et la préservation des emplois. À la suite de cette nouvelle, une rencontre s'est tenue entre les syndicats et la conseillère de l'Élysée en charge de l'industrie. À Pamiers, les 3 bornes du point d'apport volontaire de la place de la République vont être déplacées. Le dispositif n'a jamais été utilisé par les habitants, car il est resté bâché depuis la fin des travaux de rénovation de la place. Laissé en suspens pendant 2 ans, le projet de collecte des déchets va être déplacé. Selon la nouvelle municipalité, le transfert est en cours d'élaboration. Nouveauté dans les cinémas du Grand Figeac, la version audio sous-titrée débarque sur grand écran. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique en faveur de l'accès à la culture pour tous. Le dispositif VAST est proposé sur une sélection de films projetés en version originale dans les cinémas de Figeac et de Captenac-Gare. Ce service vise à améliorer l'expérience des spectateurs et à assurer l'inclusivité de tous les publics, notamment les personnes dyslexiques. Le dispositif est gratuit et facile d'usage. Les spectateurs téléchargent gratuitement sur leur téléphone l'une des applications proposant ce service, Movie Reading ou La Bavarde. Lorsqu'ils assistent à la projection en version originale, le son du film est diffusé dans la salle et une voix de comédien ou de comédienne lit les sous-titres directement dans leurs écouteurs. Demain, à l'occasion de la Journée européenne de la solidarité intergénérationnelle, l'association Habitat et Humanisme Sud-Garonne ouvre ses portes de 11h à 14h. La maison Marie-France et Jean Cronier est un exemple des réussites du vivre ensemble. Seniors, jeunes et familles précaires sont réunis sous le même toit. Ce projet lutte contre l'isolement des aînés, l'exclusion et la précarité. L'association appelle les élus à s'engager en faveur de cette cause. L'Office du tourisme de Decazeville célèbre les 200 ans de la naissance de l'artiste Gustave Moreau. Ce 30 avril à 15h, une visite du chemin de croix de l'église Notre-Dame est organisée. Peint entre 1862 et 1863, les 14 tableaux avaient été commandés par Élie Cabrol, qui souhaitait mettre en valeur l'église et soutenir un talent. Trésor longtemps ignoré, l'artiste avait voulu rester anonyme et n'avait pas signé son œuvre. Après l'authentification de l'œuvre dans les années 60, Decazeville est la ville au monde qui possède le plus de tableaux de Gustave Moreau, après le musée éponyme qui se situe à Paris. Un titre qui favorise le tourisme autour de la culture, de l'art et de l'histoire de cette ville de l'Aveyron.
Voilà, merci à Ambre Pagès de l'Institut catholique de Toulouse. Retour de l'info dans une demi-heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. La suite de Présence Midi dans les prochaines minutes, un peu de fraîcheur, direction le lac de Lourdes avec Julie de l'Office de Tourisme qui nous racontera l'histoire de ce lac de Lourdes. Et puis dans un instant, eh bien, on va parler de ce mouvement Vivre et Aimer, ce mouvement d'église qui s'inspire de la spiritualité ignatienne. C'est avec Andros Oshankovic et ses invités. Elle reçoit Hélène et Thomas Barbier qui sont coordinateur du mouvement en Bigorre, Béarn et Pays Basque.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com.
Radio Présence dans le Lauragais, 97.9.
Bonjour Hélène et Thomas Barbier.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes coordinateur du mouvement Vivre et Aimer en Bigorre, Béarn et Pays Basque, le 64 et 65. C'est un mouvement d'église que vous êtes venu nous présenter il y a quelques mois déjà au micro de Radio Présence. Alors pour rappel, c'est un mouvement d'église qui s'inspire de la spiritualité ignatienne et qui fait partie du panel de toutes les propositions qui constituent ensemble la pastorale pour les couples et les familles. Peut-être que, alors on va pas refaire l'historique du mouvement puisqu'on a déjà eu l'occasion de le faire avec vous, mais peut-être rappeler quand même la conviction forte de votre mouvement qui est vraiment le pilier, à savoir que les couples pour le mouvement est vraiment porteur de changement dans une société. Ça, c'est vraiment la conviction du mouvement Vivre et Aimer. Thomas.
Oui, effectivement, pour nous, Vivre et Aimer, on pense que le couple est le moteur de changement pour notre société. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, le couple s'expérimente d'abord dans l'apprentissage de la vie à deux. Et selon Vivre et Aimer, toujours renforcer son couple favorise les relations au sein de l'ensemble de sa famille. Donc ça a un impact positif sur les enfants, mais aussi ça permet au couple qui se sent bien d'avoir une influence positive sur son entourage, au travail, dans la société en général.
Vous voulez dire que un couple qui va bien, il rayonne au-delà de même de la sphère familiale.
C'est exactement ça, oui, tout à fait. Le couple est porteur de changement dans sa propre famille et autour de lui. Ouvert sur le monde, son amour devient contagieux.
Ah, contagieux pour les autres familles et puis pour la société tout entière. Ouais. Qu'est-ce que, si on prend le problème dans l'autre sens, qu'est-ce que la société, elle peut ou elle doit apporter au couple ?
On voit que le couple est, enfin, globalement un peu en difficulté dans la société actuelle, avec pas mal de fragilisation, dû aussi au mode de vie très différent, avec des fois des couples où il y en a un qui, voilà, les lieux de travail sont parfois différents, donc il y a même des couples qui n'habitent pas ensemble. Il y a aussi des familles recomposées avec voilà, chacun à sa maison, avec ses propres enfants, avec des moments de retrouvailles. Donc ça, c'est voilà, une réalité de société qui fait qu'il y a aussi une fragilisation.
Thomas,
oui. Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que quelque part, on peut penser ou on peut voir que la société, elle vend un peu du coup de foudre, hein, de l'amour éphémère, alors que finalement, l'amour se construit au quotidien. Pour nous, l'amour, c'est une décision de chaque jour qui conduit à la pleine réalisation de soi-même, en particulier grâce à sa prise en charge de ses propres besoins. Donc l'idée, c'est effectivement, à travers une communication toujours plus meilleure dans le couple, on accède grâce à des clés pour cela à progresser et à vraiment construire quelque chose de durable.
Voilà, vous vraiment l'objectif pour le mouvement, c'est de dire l'amour durable est possible et voilà. Il y a des clés pour y arriver et c'est ce que propose le mouvement.
Exactement. Donc en fait, en 2023, Vivre et Aimer a fêté ses 50 ans et a publié le manifeste pour l'amour durable en 10 points. C'est quelque chose qu'on peut signer, hein, on peut signer ce manifeste sur Internet. Et c'est aussi rendre visible que voilà, s'aimer pour la vie, vouloir s'aimer pour la vie, c'est possible en fait. Mais ça nécessite des outils et des moyens. Et c'est vrai que Vivre Aimer permet de proposer des outils extrêmement concrets qui ne paraissent pas spirituels à un premier abord, en fait, qui sont vraiment sur la vie concrète. C'est-à-dire, c'est relire des situations de couple en disant quel sentiment on a ressenti dans telle situation. Ça nous permet d'exprimer ce qui est vraiment profondément touché en nous et ça va permettre à notre conjoint de nous comprendre, en fait. Et sachant nous comprendre, il y aura plus d'attention et de délicatesse, en fait.
Est-ce que vous n'avez pas peur que... Alors attention, hein, je me fais l'avocat du diable. Mais est-ce que tout ça, ça ne fait pas un peu cliché ? Peut-être que parmi les auditeurs, il y en a qui se disent « Moi, je ne m'y retrouve pas dans ce que j'entends, là. C'est bien joli tout ça, c'est bien joli ce rêve. Mais les réalités des couples aujourd'hui, elles sont différentes. Et voilà, cette proposition de Vivre et Aimer, elle est très belle, mais elle colle pas pour moi ou pour d'autres situations que je connais. »
Alors peut-être que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Au niveau spirituel, c'est très ouvert parce que les couples qui viennent à nous, il y a parfois un qui est croyant, l'autre pas.
Oui.
Et là, franchement, chacun a sa place. Il y a beaucoup de respect et la spiritualité n'est pas vraiment exprimée clairement. En fait, elle est, c'est un peu la colonne vertébrale, mais c'est pas formalisé, verbalisé. Du coup, quelqu'un qui est non-croyant peut vraiment avoir sa place. Et après, c'est plutôt, je dirais, si en fait le couple a vraiment envie de durer, si les deux ont envie de ça, en fait, il suffit juste de s'accorder du temps, et ça, c'est accessible à tout le monde, en fait. C'est en fait un cadeau qu'on se fait l'un à l'autre de vraiment bloquer ça dans son agenda.
De prendre soin de son couple. Alors, c'est ce que vous proposez avec le mouvement Vivre et Aimer, mais le mouvement Vivre et Aimer n'est pas le seul mouvement ou service d'église à inventer des propositions pour aider et accompagner les couples et les familles. Et lors de la journée du 21 mars, organisée par le pôle Annonce de la foi dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, vous avez eu l'occasion, le mouvement Vivre et Aimer, par votre intermédiaire, a eu l'occasion de participer à cette journée. C'était une journée de réflexion sur le sens de la pastorale familiale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu, vous, Thomas, vous y étiez. Dites-nous comment ça s'est passé. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette proposition? Pourquoi, pour vous, c'était intéressant d'aller rencontrer d'autres acteurs de la pastorale familiale?
Alors oui, effectivement, c'était tout l'intérêt de cette initiative là, lancée donc par Thibault Leblanc, cette journée diocésaine couple et famille, où étaient invités finalement tous les mouvements ou tous les acteurs qui tournent autour de ce sujet du couple et de la famille. Donc je vais pas être exhaustif parce que je risque d'en oublier, mais bon, il y avait les équipes Notre-Dame, il y avait les gens qui font la préparation au mariage, les tandem, etc. Enfin voilà. Voilà, il y avait quand même un certain nombre de mouvements, et ce qui était intéressant, c'est que là, pour le coup, on est ancré donc dans le territoire. On était tous à cette journée avec en représentant nos mouvements, mais pas tellement avec nos étendards, beaucoup plus pour se rencontrer, se connaître. Donc ça, faire ce réseau-là, c'était déjà un objectif important pour cette journée. Une journée qui était un peu nouvelle, c'est-à-dire que par les années dans le passé.
Mais d'habitude, personne. Enfin, vous ne parlez pas tellement, chacun fait sa petite cuisine dans son coin, si je puis dire.
Oui, voilà, donc on avance chacun, alors que là, tout l'objectif et tout l'intérêt, et ce qui était vraiment beau dans cette journée, c'est qu'on a passé du temps ensemble, on a travaillé dans des carrefours sur différents sujets qui étaient proposés. Donc on a parlé du SAV après le mariage, typiquement.
Service après-vente.
Service après-vente, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que nous, l'Église, là, dans le diocèse, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc c'était tout à fait intéressant de partager les idées avec des personnes qui... Je parlais de Tandem, qui est un parcours... Donc, pédagogie des équipes Notre-Dame sur 18 thèmes qui se déroulent en général sur 2 ans. Donc il y avait un couple qui faisait ce type de proposition. Il y avait des personnes de la préparation au mariage. Donc on a travaillé ensemble pour regarder qu'est-ce qui ferait sens. Et ce qui est peut-être ressorti en premier, en tout cas moi ce qui m'a marqué, c'est la volonté des uns et des autres de faire un travail de cohésion, de se connaître mieux et de regarder comment on pouvait s'épauler les uns les autres pour pouvoir avancer dans les missions qu'on a reçues là, pour un temps chacun. Voilà, donc ça, je pense que ça a été vraiment un point très fort. Du reste, pour parler plus de nous, Hélène et moi, on est en train de préparer, et demain on va avoir une réunion sur la préparation au mariage, pour regarder si on peut mettre en place une équipe conjointe avec donc la paroisse de Lourdes et celle d'Argelès, typiquement. Voilà, donc, parce qu'il y a des besoins, on est appelé par nos prêtres et on ne veut pas travailler tout seul dans notre coin.
Alors, ça, c'est quand même, pardon, je vous coupe, mais ça, c'est quand même très important de dire, de faire entendre aux auditeurs que vous ne voulez pas rester seul dans votre coin, que vous avez vraiment un désir de travailler ensemble avec les paroisses, avec les autres mouvements, qu'il y a vraiment une volonté de proposer ou de donner un sens à ce qu'est la pastorale des couples et des familles, tous ensemble, quoi, pas chacun de son côté, chacun avec son style.
Voilà, tout à fait. Donc c'était vraiment, je crois, l'objectif de cette journée de Thibault, et je crois comprendre que tout le monde a été au rendez-vous avec cette proposition et avec ce souhait. Et ça, c'était vraiment super de découvrir ça, tous autour de la table, qu'on avait pour la plupart tous cette aspiration.
Voilà. Alors, ça n'empêche pas que vous allez continuer à déployer les propositions qui sont vraiment propres au mouvement, tout en travaillant en collaboration, on a bien compris, avec les autres réalités et les autres propositions de la pastorale couple et famille. Mais pour ce qui est du mouvement Vivre et Aimer, en tous les cas, il y a deux rendez-vous dont on va parler maintenant. C'est une soirée le 21 mai prochain. Là, il s'agit de découvrir les clés de l'amour durable. Non, on vient d'évoquer l'amour durable. Ça, c'est une soirée à l'autre. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est l'objectif de cette soirée? Alors, découvrir les clés de l'amour durable, oui, mais ça s'adresse à qui exactement?
Alors, le 25 septembre dernier, il y a déjà eu ce type de soirée dans énormément de villes en France. C'était un petit peu le buzz pour faire découvrir le mouvement. Cette soirée a été vraiment beaucoup suivie. Et donc, nous, l'objectif, c'était de, à nouveau, faire connaître le mouvement, surtout sur le 65, parce que c'est un mouvement qui est assez peu connu dans le diocèse. En vue également de la session d'octobre, là, qui est un week-end, ça peut peut-être faire un petit peu peur, se dire voilà, on va passer deux jours dans ce mouvement, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on va être piégé par quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va devoir parler en couple, en groupe de notre intimité, etc. Donc voilà, il peut y avoir des appréhensions, et du coup cette soirée découverte, c'est un petit peu la session en mini format, c'est-à-dire c'est voilà une soirée où il va y avoir trois couples qui vont témoigner de questions très concrètes, et déjà c'est un petit peu rentrer dans le cheminement, la proposition de vivre aimé, voilà, voir si les gens adhèrent à la proposition, et s'ils ont envie d'aller plus loin, il y aura la possibilité de la session plus tard.
Ça, c'est pour tous les couples, ou pour ceux qui se préparent, ceux qui sont mariés depuis longtemps, ceux qui sont mariés depuis quelques mois?
Alors, la soirée découverte, ça peut être pour tous les couples. La session d'octobre, c'est aimer dans la durée, donc c'est plutôt pour les couples qui ont au moins 5 ans de vie commune.
D'accord.
Mais la soirée, ça peut être pour tous les couples, en fait.
Pour l'une et l'autre des soirées, concrètement, comment ça se passe d'un point de vue logistique? Enfin, pour la soirée et le week-end, comment ça se passe d'un point de vue logistique? J'imagine que si vous venez en parler au micro de Radio Présence dès aujourd'hui, c'est qu'il y a des inscriptions.
Oui, voilà. Donc, la soirée donc, du 21 mai va débuter à 20h. Ça va durer jusqu'à 22h30 maximum.
Voilà, ça se passe au centre paroissial Saint-Pierre à Lourdes. Hein.
Voilà, ça se passera au centre Saint-Pierre paroissial à Lourdes, exactement. Vous êtes invité à venir en couple, puisque il y aura, comme dit Hélène, un ensemble de témoignages, mais aussi des réflexions à avoir à l'intérieur du couple, en intimité. Donc ça fait sens que de venir à deux, bien sûr. Mm-hmm. Et puis, donc cette soirée se passera avec un cheminement assez simplifié, mais qui va faire toucher un peu du doigt des sujets de communication dans le couple, et puis qui se terminera par un petit verre de l'amitié, tout simplement, en fin de soirée.
Voilà, l'accueil convivial, ça compte aussi. Alors tout ça, on a bien compris, cette soirée du 21 mai, elle est en quelque sorte un peu un avant-goût pour le week-end, la session hein, Aimer dans la durée, du 16 au 18 octobre prochain. Donc là, c'est aussi à Lourdes, mais ça se passe au sanctuaire?
Non, c'est à la Maison Saint-Fray.
C'est à la Maison Saint-Fray, donc juste à côté du sanctuaire de Lourdes. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous avez déjà des couples qui sont inscrits,
oui,
hein, pour cette session.
Oui, c'est ça.
Donc il reste des places, mais il faut pas trop traîner, quoi. C'est maintenant que ça se passe.
Oui, tout à fait.
Ouais. Comment on fait? On va sur le site.
Oui.
Sur le site internet, on peut aussi vous envoyer un mail.
Tout à fait, oui. Mais pour les sessions, en fait, il y a chez Vivre Aimé un couple inscripteur, en fait, qui dialogue avec les couples et qui répond vraiment à leurs questions et qui est vraiment formé là-dessus. Mais en fait, on peut aussi nous contacter, bien sûr.
Voilà, BBB comme Bigorre Béarn Basque, Pays Basque, bbb@vivre-et-aimer.org, ça c'est l'adresse mail, et puis le site internet
vivre-et-aimer.org.
Voilà, c'est la même chose. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure en beauté cet entretien?
Oui, alors il y a une petite date aussi qu'on vous avait pas donnée, Androse. C'est le 7 juin, il y a une journée familiale à Pau. Voilà. Alors, c'est pas sur le diocèse.
Ils en sortent toujours de leur chapeau.
Nous, en fait, on est une grande famille. Donc, voilà, on réunit les.
Mais on écoute Radio Présence à Pau aussi. Donc, à Pau et dans le Béarn, Radio Présence, pas de problème.
Voilà, donc une journée familiale où vous pouvez venir avec aussi vos enfants. Il y aura une garderie pour les enfants.
Voilà, donc toutes les infos, les inscriptions, les modalités, les renseignements sur le mouvement, tout ça, c'est sur le site internet, que ce soit pour le 21 mai, le 7 juin ou la session du 16 au 18 octobre prochain. Et je suis sûre que vous reviendrez nous en parler de cette session d'ici le mois d'octobre.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup à tous les deux, Hélène et Thomas Barbier. À bientôt sur Radio Présence.
Merci.
Au revoir.
Voilà, merci à Hélène et Thomas Barbier. Merci aussi à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé cet entretien. À réécouter sur radioprésence.com. Dans un instant, un peu de fraîcheur, direction le lac de Lourdes avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes.
Présence.
Dans la vallée de la Garonne, 97.9. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Il fait 52 hectares et 12 mètres de profondeur, c'est le lac de Lourdes et c'est le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder avec Julie. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes, je le disais, ce lac de Lourdes, on va en parler dans un instant, mais peut-être c'est important pour nos auditeurs de rappeler l'origine de ce lac.
Tout à fait. C'est un lac situé au nord-ouest de Lourdes. Donc, quand on prend la route qui va vers Pau en passant par Soumoulou, c'est un lac naturel d'origine glaciaire qui a été déposé là après la fonte du glacier qui recouvrait la vallée d'Argelès-Gazost, notamment. C'est le même qui a déposé le rocher sur lequel est perché le château fort en centre-ville. Et ce lac, depuis la nuit des temps, il a toujours appartenu au comte de Bigorre. Donc c'était un petit peu leur réserve privée pour chasser, pêcher et également couper le jonc et les roseaux qui étaient des matériaux utilisés à l'époque pour les constructions. Donc cette possession a longtemps aussi été disputée par le village voisin de Saint-Pé-de-Bigorre qui le voyait quand même comme un bel atout, ce lac de Lourdes. Et plus tard, il est passé de main en main et jusqu'en 1989 où il est devenu propriété de la ville.
Donc le lac de Lourdes, c'était aussi un lieu d'excursion pour de nombreux pèlerins qui venaient à Lourdes,
oui.
Et qui viennent toujours.
Voilà, avec le développement du tourisme et, des pèlerinages à partir des événements de 1858, on va avoir dans les années 1900 une diversification un petit peu des activités. Donc il va y avoir notamment la création du funiculaire du Pic du Gers et aussi la redécouverte un peu de ce lac, de ce site naturel qui va devenir le lieu d'excursion à la demi-journée à partir des années 1900. On pouvait y aller avec une auto, les premières dans leur genre, une auto, et pour quelques francs, on avait aussi le déjeuner à base de poissons pêchés directement dans le lac et le petit tour en barque. C'est à ce moment-là que la zone actuelle que l'on connaît encore sous le nom d'embarcadère a commencé à être aménagée petit à petit pour le tourisme, justement.
Sur ce lac, on y a fait pas mal d'activités avant de se rendre compte qu'on abîmait l'écosystème. Quelles étaient ces activités qui peuvent paraître aujourd'hui un peu étonnantes?
Oui, c'était assez étonnant, mais il faut savoir que le lac a été une base d'hydravions entre 1935 et 1938. C'était vraiment l'âge d'or du développement de l'aviation dans la région, notamment avec les frères Wright qui étaient à Pau, et un peu plus près, Pierre-Georges Latécoère, qui était originaire de Bagnères-de-Bigorre et qui était l'un des pionniers dans la construction d'avions pour notamment le transport par avion. C'était devenu une base dont une autre aussi dans le sud-ouest qui était connue, c'était le lac de Biscarrosse qui abrite toujours de nos jours le musée de l'hydravion. Donc on pouvait vraiment faire un tour d'hydravion autour du lac de Lourdes. Toujours dans cette continuité, après-guerre, la modernité qui est le maître mot à l'époque fait que le lac est choisi pour être le lieu du championnat d'Europe de hors-bord en juin 1963. Donc on avait des hors-bords et aussi plus tard du ski nautique, du parachute ascensionnel, un grand plongeoir également, mais voilà, comme vous le disiez, ça a eu pas mal de répercussions sur l'écosystème local qui a un peu souffert. Et c'est à partir de 1980 que les moteurs ont été interdits sur le lac de Lourdes.
Autre étape pour le lac de Lourdes, c'est en 2006.
Voilà, à partir de 2006, la tourbière qui recouvre la rive ouest du lac sur près de 16 hectares est un site protégé Natura 2000, donc il y a pas mal d'espèces rares végétales et animales qui y sont protégées. Et la tourbière est notamment préservée et entretenue grâce à des races locales de vaches, la race lourdaise, qui permet d'entretenir naturellement cette tourbière. Plus récemment aussi, en 1989, l'architecte Olivier Brison a construit le golf 18 trous sur les bords du lac.
On peut peut-être donner quelques caractéristiques. J'en ai donné au début de cet entretien de ce lac de Lourdes. On peut facilement faire le tour du lac, hein.
Oui, exactement. C'est un très joli site de balade. Il y a environ 6 kilomètres. C'est plutôt facile. C'est à peu près plat. Ça prend à peu près 1h30 de balade. On peut aussi faire le tour à vélo ou notamment le dimanche matin, y faire son jogging. C'est quand même un site très couru et très connu des Lourdais et des visiteurs également.
Et ce lac de Lourdes aussi permet de se raccorder au chemin Henri IV.
Oui, c'est de là que démarre le chemin Henri IV, qui est un chemin qui va jusqu'à Pau. Un chemin assez ancien, puisque sur ce chemin, on retrouve notamment des menhirs et des constructions très anciennes. Un chemin qui fait environ 45-50 km à peu près jusqu'au château de Franqueville à Hydron,
Autour de ce lac de Lourdes, il y a la légende du lac de Lourdes. Ça fera l'objet d'une prochaine chronique avec vous, Julie. Il me reste qu'à vous remercier de nous avoir parlé donc de ce lac de Lourdes. Vous l'avez dit, qui se trouve à la sortie de Lourdes en direction de Pau. Un grand merci. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique Balade en Pays de Lourdes. À bientôt, Julie.
Merci beaucoup. À bientôt.
Balade en Pays de Lourdes. En partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, et savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Et à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure.
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le Mali toujours dans l'incertitude après la prise hier de la ville de Kidal par une coalition.